Chapitre 6. Quand la magicienne fut partie, Bannon s'essuya de nouveau la bouche et toucha délicatement ses plaies. Puis, il tenta de sourire, ce qui aggrava la douleur. Pourtant, il devait sourire, sinon son monde déjà si fragile s'écroulerait. Son pantalon de toile était souillé de sang et froissé, mais c'était un solide vêtement de travail, conçu pour durer, qui lui avait rendu de fiers services à bord du navire. Sa chemise, elle aussi faite maison, était déchirée. Mais pendant la traversée, il pourrait la repriser. En mer, on avait beaucoup de temps libre et il était doué avec une aiguille et du fil. Parfois, il regrettait de ne pas avoir une jolie et gentille femme pour lui confectionner de nouveaux vêtements. Comme sa mère sur l'île de Chiria. Et tant qu'à faire, pourquoi ne pas avoir aussi de beaux enfants aux yeux brillants? 5, décida-t-il. Sa femme et lui riraient beaucoup. Pas comme sa mère, toujours triste. Avec lui, ce serait différent, parce qu'il n'était pas comme son père. Non, pas du tout. Haussant les épaules, il prit une grande inspiration et se força à repenser au joli portrait de famille qu'il gardait dans un coin de son esprit. Une maison bien chauffée, une vie harmonieuse. Il tenta de faire contre mauvaise fortune bon cœur, et son sourire cette fois lui parut convaincant. S'il s'efforçait de ne plus remarquer ses orions, tout irait bien. Il le fallait. Quand il déboula dans une grande rue, sous un ciel bleu sans nuages, l'air du large vint lui chatouiller les narines. Exactement comme il l'avait rêvé, Tanimura était la ville de toutes les merveilles. Pendant sa première traversée, il avait demandé aux autres marins des récits sur Tanimura. Si ce qu'il racontait lui avait paru impossible, ses rêves ne l'étaient pas. Du coup, il avait cru les vieux loups de mer, ou, au minimum, il leur avait laissé le bénéfice du doute. Une fois le randonneur des vagues à quai, il avait dévalé la rampe d'embarquement, pressé de découvrir que la ville, pour une fois dans sa vie, correspondait à ses attentes. Les autres membres d'équipage, leurs soldes en poche, avaient filé vers des tavernes où ils mangeraient autre chose que du poisson, du chou en saumure ou de la viande salée et boiraient jusqu'à en sombrer dans le coma. Les plus résistants iraient solliciter les services de femmes disposées à écarter les cuisses pour n'importe qui, à condition qu'on y mette le prix. Dans les bucoliques villages de Chiria, les dames de ce genre n'existaient pas, et dans le cas contraire, faute de les avoir jamais cherchées, ils n'en avaient pas vu. Ivre mort, son père prenait plaisir à traiter sa mère de putain, juste avant de la frapper. Pourtant, les matelots du randonneur semblaient apprécier ces putains et n'avoir aucune envie de leur taper dessus. Où était donc la pertinence de l'insulte préférée de son géniteur? Les dents serrées, Bannon se concentra sur l'air frais et la douceur des rayons de soleil. Sans y penser, il repoussa en arrière ses longs cheveux roux. Que les autres marins profitent de leur beuverie et de leurs femmes de petite vertu. Pour son premier séjour, il voulait s'enivrer de Tanimura jusqu'à ce que la tête lui tourne. Depuis toujours, il imaginait que le vaste monde était ainsi. Et il fallait qu'il le soit. Les bâtiments blancs aux toits de tuiles très grands arboraient souvent des fenêtres fleuries. Du linge multicolore pendait à des cordes tendues entre les maisons et des enfants couraient dans les rues à la poursuite d'un ballon qu'ils bombardaient de coups de pied, un jeu qui ne semblait pas avoir de règles bien précises. Un gamin échevelé percuta Bannon, rebondit souplement et s'enfuit à toutes jambes. Inquiet, le jeune homme palpa ses poches. La collision accidentelle, une ruse bien connue des voleurs. Déjà dépouillé, Bannon n'avait plus rien à offrir aux membres de cette peu honorable corporation. À part le trésor caché dans sa botte gauche, mais encore fallait-il que ces tristes sires le trouvent. Bannon inspira deux fois, ferma les yeux puis les rouvrit. Sans sourire revenant, il se força à croire que le gamin l'avait simplement bousculé sans mauvaise intention. Enfin, si jeune, on ne pensait pas déjà à détrousser un étranger un peu distrait. Toujours en quête d'un forgeron, le jeune homme arriva sur une grande place qui surplombait l'océan où se découpaient les voiles de dizaines de bateaux. Une femme plus que rondelette approcha. Poussant une carriole où s'entassaient des clames, des coques et des poissons déjà vidés, elle semblait ne pas se faire d'illusions sur la qualité de sa marchandise. Un peu partout, des vieux marins aux mains ravagées par l'arthrose s'échinaient à repriser des filets de pêche. À force, ils ne sentaient probablement plus leurs doigts douloureux. Dans le ciel, des mouettes volaient en rond, guettant la moindre miette de nourriture abandonnée. Bannon se trouva soudain devant la boutique d'un tanneur. À l'intérieur, un type au visage rond, les cheveux noirs, s'acharnait à nettoyer des pots. Non loin de là, son épouse, une matrone plus large que haute, plongeait dans de la teinture verte les pièces de cuir préparées par son mari.
Navré de vous déranger, dit Bannon, mais pouvez-vous m'indiquer un bon armurier? Pas trop cher en plus.
La femme leva les yeux de sa cuve.
Tu veux t'engager dans l'armée du seigneur Hall, c'est ça? Mais les guerres sont terminées, mon garçon. Une nouvelle ère de paix a commencé. Maigre comme t'es, ils ne voudront plus de toi maintenant qu'ils n'ont plus trop besoin de chair à bombarde.
Je ne veux pas m'engager, précisa Bannon. Je navigue sur le rang d'honneur des vagues, mais on m'a dit que tout homme digne de ce nom doit avoir une épée, et je me sens digne de porter le nom d'homme.
Tu en as l'air en tout cas, intervint le tanneur. Tu devrais essayer Mondon Smith. Il propose toutes sortes de lames, et je n'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre de lui.
Où puis-je le trouver? Je suis nouveau en ville et...
Le tanneur eut un sourire narquois.
Nouveau en ville, toi, je m'en serais pas aperçu.
La femme de l'artisan sortit les mains de la cuve. À force de les tremper dans la teinture, elles étaient vertes. Une coloration sans doute indélébile.
À deux rues d'ici, après le marchand de cornichons. À l'odeur, tu ne pourras pas le rater. Tu verras la boutique d'un fabricant de bougies.
Le tanneur interrompit sa femme.
Surtout ne lui achète rien. Cet escroc remplace la cire d'abeille par de la graisse et ses bougies fondent en un clin d'œil.
Merci du conseil, mais je ne suis pas à la recherche de bougies.
Après la fontaine à sec, continua la femme, tu trouveras ton armurier.
Mondon Smith, de bonnes épées, un type travailleur et des prix raisonnables. Mais ne l'énerve pas en demandant un rabais.
Je compris. S'il est réglo, je le serai aussi.
Bannon salua le couple et s'éloigna. L'odeur du vinaigre le prenant à la gorge, il trouva sans peine la boutique du marchand de cornichons. Mais le bougre faisait aussi fermenter du chou, et l'estomac du jeune homme faillit se retourner. La même puanteur que chez lui, dans les champs et ailleurs. Chez lui. Ce cul de bas de fosse où il aurait croupi jusqu'à la fin de ses jours. Des choux et encore des choux. Secouant la tête pour chasser la puanteur de ses narines, Bannon passa devant l'échoppe du fabricant de bougies indélicat, sans lui jeter un regard, puis s'émerveilla devant une fresque peinte sur la longue façade d'un bâtiment public. Elle représentait un moment dramatique de l'histoire. Lequel? Il aurait été bien en peine de le dire. La statue d'une superbe nymphe ornait la fontaine à sec. Décidément, Tanimora regorgeait de merveilles. Même après avoir été détroussé et presque tué, Bannon n'avait aucune envie de s'en aller. D'un autre côté, rien ne pouvait être pire que ce qu'il avait laissé derrière lui. Il était parti par désespoir, mais aussi pour voir le monde, sillonner les océans et faire escale dans tous les ports. S'installer dès le premier n'aurait pas été malin. Cela dit, il avait été plus qu'impressionné par la superbe et terrifiante magicienne. À Chiria, on ne risquait pas de rencontrer des gens pareils. Une fois qu'il eut repéré l'armurerie au bout de la rue, Bannon s'assit sur le muret de la fontaine, retira sa botte gauche et récupéra son argent. À cause de ses pièces, il avait une ampoule au pied, mais il se félicitait quand même d'avoir retenu la leçon de son père, ne jamais mettre tout son argent au même endroit. Bannon prit une grande inspiration et marcha jusqu'à l'armurerie.
« Je viens acheter une épée, messire, »
dit-il à l'artisan en tapotant ses poches vides.
Encore un réflexe idiot.
La peau noire et le crâne chauve brillant, Mondon Smith arborait une barbe sombre touffue.
« Je m'en doutais un peu, jeune homme, puisque c'est ce que je vends. J'ai toutes les armes imaginables. Lame courte, longue ou incurvée, garde fermée ou ajourée, poignée à une ou à deux mains. » Et bien sûr, tout ça dans le meilleur acier.
Mondon Smith désigna un présentoir qui croulait sous les épées. De quoi donner le tournis à un néophyte.
Quel genre d'arme veux-tu?
Eh bien, j'ai peur que vous n'ayez pas ça en magasin. »
L'armurier tritura sa barbe un moment, puis la lissa pour lui rendre toute sa belle longueur.
« Mon garçon, je peux tout fabriquer, sache-le. »
Bannon reprit espoir.
« Dans ce cas, il me faut une épée abordable. »
L'armurier ne s'attendait visiblement pas à ça. D'abord perplexe, il éclata de rire.
« Une demande délicate. Et si tu définissais ce que tu entends par abordable ?»
Bannon exhiba ses dernières pièces.
« Eh bien, ce n'est pas gagné, petit. Mais il serait indigne de te laisser partir sans armes. Certains quartiers de Tanimura ne sont pas très sûrs. »
J'ai cru m'en apercevoir.
Voyons ce qu'on peut faire.
Mandon commença par sélectionner des barres de métal qu'il n'avait ni forgées ni martelées. Puis, il chercha parmi des épées longues inachevées, des lames cassées, des couteaux ornementés, des coutelas, et s'arrêta même sur une lame si courte qu'on la voyait mal couper autre chose que du fromage et du beurre. L'armurier s'attarda sur une arme miteuse environ de la longueur du bras de Bannon. Une garde droite, un pommeau presque invisible, la poignée enveloppée de cuir, sans fil d'or ou d'argent pour dessiner un motif. La lame était décolorée comme si elle avait eu un problème au moment de la trempe. Aucune rainure ne permettait l'écoulement du sang et on ne voyait pas l'ombre d'une gravure. Bref, une arme terriblement banale. Mandon testa l'équilibre de l'épée, fit quelques mouvements dans l'air puis tendit l'arme à Bannon.
Et c'est là.
Bannon eut d'abord peur de se ridiculiser en laissant tomber l'épée, mais sa main s'adapta parfaitement à la poignée. Sur le cuir, ses doigts trouvèrent leur place sans la moindre difficulté.
« Elle a l'air solide au moins. »«
Exact. Et la lame est affûtée. Elle ne te décevra pas. »«
Oui, mais j'avais imaginé quelque chose de plus... »
Bannon pesa ses mots pour ne pas offenser l'artisan.
« De plus élégant. »
« Tu as compté tes pièces, mon garçon ?»«
Oui, je comprends votre position. »
Mandon flanqua dans le dos de son client une claque qui l'ébranla jusqu'aux oreilles.
« Hiérarchise tes objectifs, jeune homme. Quand un type baisse les yeux sur l'arme qui vient de lui transpercer le torse, il pense rarement à critiquer la sobriété de la poignée. »«
C'est assez bien vu. »
Mandon étudia la lame et sourit.
« Cette arme a été fabriquée par Harold, un de mes apprentis les plus doués. Je lui avais demandé une épée simple et de qualité. Il a fallu 4 essais, mais je connaissais son potentiel et j'étais prêt à investir de l'acier dans l'aventure. »
L'armurier tapota la lame qui émit une note métallique limpide.
« Harold a accepté cette commande pour me prouver qu'il était prêt à sillonner le pays. Il est parti et 3 ans après, devenu un grand armurier, il a fabriqué une épée incroyable, son chef-d'œuvre. Du coup, je l'ai nommé maître armurier. »
Mandon soupira tristement.
« Aujourd'hui, c'est un de mes plus redoutables concurrents. »
Bannon regarda l'épée d'un autre œil.
« Tu vois ce que je veux dire, mon garçon. Cette épée ne paie pas de mine, mais elle a été bien forgée et ne décevra pas son propriétaire. » Sauf si ton but est d'impressionner une jolie fille. »
Bannon sentit le rouge lui monter aux yeux.
Pour ça, il me faudra compter sur autre chose. Cette épée servira à me protéger.
Bannon prit l'arme à 2 mains et la battit dans l'air.
Le résultat lui parut très convaincant. Parce que c'était ça ou pas d'épée du tout. Elle fera son boulot, dit Mandon.
Bannon bomba le torse et acquiesça comme s'il avait besoin de se convaincre lui-même.
« Un homme ne sait pas quand il peut avoir besoin de se défendre. »
La face sombre du monde apparut au jeune homme, douchant son enthousiasme. Tanimura, la merveilleuse, n'était pas qu'une cité radieuse. On y volait et tuait partout dans les coins sombres. D'une main tremblante, Bannon tendit ses dernières pièces à l'armurier.
« Vous êtes sûr que ça suffit ?»
Mandon saisit les 2 pièces d'argent et 4 pièces de cuivre sur 5.
« Je ne prends jamais la dernière pièce d'un homme. Sortons, mon garçon. Dans la cour de derrière, j'ai un rondin d'entraînement. »
À côté de cuves de refroidissement pleines d'eau croupie, d'une meule et de plusieurs grosses pierres à aiguiser, Un tronc de pin se dressait au milieu d'une zone dégagée, au sol couvert de paille. Des copeaux de bois gisaient un peu partout. Mandon désigna le tronc couvert d'entailles.
« C'est ton adversaire. À toi de te défendre. Imagine que c'est un soldat de l'ordre impérial, ou pourquoi pas l'empereur Jagang en personne. »«
J'ai assez d'ennemis imaginaires, » marmonna Bannon. « Inutile d'en rajouter. »
Il approcha du tronc, frappa, et fit la grimace quand l'onde de choc remonta le long de son bras.
Mandon ne fut pas impressionné. « Tu essaies de cueillir une fleur, mon garçon ? Frappe !»
Bannon prit plus d'élan, et son coup arracha un gros morceau d'écorce au pauvre pin.
« Allons, défends-toi !»
cria Mandon. Bannon obéit. Cette fois, il eut l'impression que l'impact lui arrachait le bras.
« Je me défendrai !»
marmonna-t-il.
« Pas question d'être impuissant !»
Il frappa en imaginant un adversaire en chair et en os. Que ça faisait du bien! Un soir, chez lui, il était rentré une bonne heure après le coucher du soleil. Comme tous les gens de son âge, il avait dû louer ses bras à un riche propriétaire. Au lieu de retourner sa terre, il devait travailler pour le plus offrant. Tout ça parce que son père avait depuis longtemps perdu ses droits de propriété. Bien avant le dîner, ce sale type, déjà en vadrouille, passait d'une taverne à l'autre. Se saouler à mort était ce qu'il faisait le mieux et il mettait du cœur à l'ouvrage. Au moins, le vieux ne serait pas à la maison. Un répit bienvenu pour Bannon et encore plus pour sa mère. La semaine précédente, pour les traditionnelles récoltes, il avait gagné un peu d'argent qu'il venait de toucher. À ce moment de l'année, déterminant pour le commerce du chou, les fermiers payaient mieux que d'habitude. Bannon avait assez d'argent pour quitter l'île de Shiria. En fait, il aurait pu partir un mois plus tôt. Depuis des années, c'était son rêve, et il regardait avec de grands yeux les rares navires commerciaux qui quittaient le port. Les insulaires n'ayant pas grand-chose à vendre et très peu d'argent pour acheter, ces navires venaient tous les deux ou trois mois. Mais même s'il devrait attendre, Bannon avait compris qu'il ne pouvait pas partir sans sa mère. Ensemble, ils s'en iraient et accosteraient sur les rives d'un monde parfait où ils feraient bon vivre. Que de noms merveilleux ! Tanimura, le palais du peuple, les contrées du milieu. Même les pires endroits du Nouveau Monde où régnait la barbarie seraient préférables au cauchemar qu'il subissait sur son île natale. La pièce d'argent gagnée ce jour-là serrée dans sa main, Bannon était rentré chez lui avec la certitude d'avoir assez pour payer deux passages pour la liberté. Dès qu'un bateau arriverait, ils feraient leurs adieux à cet enfer. Pour ne pas risquer de se tromper, il avait décidé de recompter son trésor caché au fond d'un pot de fleurs, devant la fenêtre de sa chambre. Après qu'il l'eut planté et soigné, une belle anémone avait fini par mourir, comme c'était le destin de toute chose en ce monde. En rentrant chez lui, Bannon avait immédiatement senti une odeur de nourriture brûlée et une autre odeur cuivrée qu'il connaissait trop bien. Debout devant la cheminée, sa mère s'était détournée de la casserole dont elle remuait le contenu. Puis, elle avait tenté de sourire, mais c'était difficile avec le visage embouilli. Non, tout n'allait pas bien. Et cette fois, elle ne pouvait pas jouer la comédie.
« J'aurais dû être là pour empêcher ça, maman. Tu n'aurais rien pu faire. »
Une voix rauque et brisée, sans doute pour avoir trop crié de douleur puis sangloté d'humiliation.
« Je ne lui ai pas dit où tu caches ton argent. Non, pas dit. »
Sa mère avait recommencé à pleurer, le dos appuyé contre le manteau de la cheminée.
« Je ne lui ai pas dit, mais il savait. Il a fouillé ta chambre jusqu'à ce qu'il trouve les pièces. »
Le goût de la bile dans la gorge, Bannon avait couru dans sa chambre. Un désastre. Ses quelques objets personnels brisés, son matelas éventré, la couette cousue par sa mère déchirée et le pot de fleurs renversé de la terre un peu partout. Plus une seule pièce.
« Non, non !»
Cet argent, c'était l'espoir d'une nouvelle vie pour deux personnes. Pour le gagner, il avait travaillé dur dans les champs et économisé pendant un an. Son ivrogne de père ne l'avait pas seulement volé, il venait de le dépouiller de son avenir.
Non !
C'était comme ça que le vieux salaud avait appris à Bannon qu'on ne devait jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Parce qu'un voleur pouvait tout prendre d'un coup. La qualité de la cachette importait peu. Un voyou pouvait être malin ou arracher des informations par la violence. Mais quand il avait trouvé un peu d'argent, le convaincre qu'on n'avait plus rien et s'en débarrasser devenait possible.
« Au nom des esprits du bien, qu'est-ce qui te prend, mon garçon ?»
La voix de l'armurier arracha Bannon à ses souvenirs.
« Tu vas finir par bousiller mon tronc d'entraînement, briser cette lame et te casser un bras !»
Bannon vit ce qu'il avait fait. Comme si un bûcheron s'y était attaqué, le tronc de pin portait de larges et profondes entailles. Les paumes moites, le jeune homme parvenait quand même à serrer très fort la poignée de son arme comme s'il voulait la broyer. Malgré tout, la lame était intacte. Les épaules douloureuses, les mains et les poignets à l'agonie, Bannon inspira à fond.
« Je crois que je l'ai assez essayé, cette arme. Vous avez raison, maître armurier. C'est une bonne épée. »
Bannon sortit de sa poche son ultime pièce de cuivre.
« J'ai encore une demande. Une pièce de cuivre, c'est assez pour que vous l'aiguisiez de nouveau? J'ai peur qu'elle coupe un peu moins bien après mon entraînement. »
Mandon dévisagea son client puis accepta le paiement.
« Quand j'en aurai fini, ton arme coupera comme un rasoir. Et si tu l'entretiens, ça durera longtemps.
Je le ferai, c'est juré. »
L'armurier utilisa une pierre à aiguiser pour redonner tout son tranchant à l'épée. Le regardant sans le voir, Bannon se replongea dans un tourbillon de souvenirs. Très bientôt, il allait devoir se présenter au rapport, histoire de ne pas rater le départ du bateau. Les autres marins, dévastés par la gueule de bois, seraient aussi fauchés que lui. Au moins, il ne départerait pas parmi eux.
Se forçant de nouveau à sourire, il toucha délicatement ses lèvres, ignorant la douleur et imagina ce qu'il ferait au prochain bandit qui s'aventurerait à l'attaquer. Un instant, il repensa à son rêve. Une vie satisfaisante, une famille, des amis. Il ne pouvait pas s'agir seulement de fantasmes. Quelque part, le bonheur existait. Tout au long de son enfance, alors que son père cognait et beuglait, Bannon Farmer avait dessiné dans sa tête l'image d'un monde idéal. Pas question qu'il y renonce.
Pendant qu'il rêvait à son bonheur futur, Mandon n'avait pas chômé.
« J'ai fini !» dit-il en tendant l'arme à son client. « Cette épée, je te la remets avec l'espoir sincère que tu n'auras jamais à t'en servir. »
Bannon sourit et tressaillit quand ses lèvres les lancèrent.
« C'est ce que j'espère aussi. »
Mais sans y croire, hélas. Après avoir salué Mandon, le jeune homme sortit de l'échoppe et prit la direction des quais.